franceinter.fr.
Nuit noire, Patrick Liégibel. Atome crochu, de Marion Cibla. Une réalisation de Michel Sidorov. Scénariste pour la télévision, auteur de pièces de théâtre, seul ou en coécriture, Marion Cibla a d'abord été chroniqueuse au Fou du Roi. Auteur de sketchs humoristiques, notamment pour nos amis belges, Marion concocte aussi des questions pour des jeux télévisés. Depuis 2000, elle écrit régulièrement pour Nuit Noire et Au fil de l'histoire. Cécile et Antoine sont des bobos peu sympathiques qui vont vivre une aventure pour le moins initiatique.
Si j'ai parlé de mon amour, c'est à Loulante, qui m'écoute quand je me penche sur elle. Si j'ai parlé de mon amour, c'est au vent qui rit et chuchote entre les branches. Si j'ai parlé de mon amour, c'est à l'oiseau qui passe et chante avec le vent.
Pas vrai. Merde.
Oh, pardon.
Ne vous excusez pas, j'en ai pour une minute. Il faut juste que je mette la main sur un carnet.
Celui-là?
Oui, vous l'avez trouvé où?
Dans votre cabinet de toilette, en faisant le ménage.
Quel idiot je suis. Merci, vous me sauvez la vie, madame.
Je préfère qu'on m'appelle par mon prénom, Maïti.
Maïti? C'est très joli. Excusez-moi, je vous laisse, ma femme est restée dans la voiture.
Oui, je sais. Vous allez prendre votre jet au Bourget.
Effectivement, mais comment...
Je crois qu'il va vous attendre encore un moment.
Oh non, juste le week-end. Tu sais, avec Antoine, ce sont jamais de longues vacances, hein. Ouais, Saint-Martin. Non, finalement, je préfère parce que Saint-Barth, c'est devenu trop people. Pour peu que tu boives ton mojito cerise à côté de Mick Jagger, tu te retrouves le lendemain dans Closer. Ouais, exactement, ouais. Par rapport aux responsabilités d'Antoine, ça ferait mauvais genre. D'accord, ma chérie. On se voit au défilé Dior la semaine prochaine, hein? Je t'embrasse. Ali, s'il vous plaît. Vous pouvez pousser un peu la clim, je meurs de chaud.
Oui, madame.
C'est tellement agréable.
Désirez-vous un rafraîchissement, madame?
Pourquoi pas? Mon mari semble bien parti pour passer ses interminables coups de fil.
Ah, vous êtes folle. J'ai terriblement mal.
Un peu d'eau sur les yeux. Tenez, là, ça va mieux?
Détachez-moi tout de suite!
Non, vous êtes très bien assis, là!
Écoutez, si c'est de l'argent que vous voulez...
Chut. C'est vous qui allez m'écouter.
Vous avez intérêt à être rapide. Parce que quand mon chauffeur ne me verra pas revenir...
Ali, et... Non, je ne crois pas qu'il va monter ici.
Vous connaissez mon chauffeur?
Je connais beaucoup de choses qui vous concernent. Vous savez ce que c'est?
Un dosimètre?
Oui. Ça mesure le taux de radioactivité, entre autres.
Ah, d'accord. J'ai compris. Vous faites partie de cette bande d'éco-terroristes qui me font passer pour un monstre.
Je ne fais partie d'aucune bande. Et, comme vous voyez, c'est en passant sur moi que le compteur Gégère s'affole.
Vous avez quelque chose de radioactif sur vous?
On peut dire ça comme ça. C'est moi, tout entière, qui suis radioactive.
C'est délicieux ce que vous m'avez préparé, Ali. C'est frais, acidulé.
Un cocktail de mon pays, Un peu d'orange sanguine, du citron vert, de l'ananas frais et un benzodiazépine léger.
Quoi ?
Rien de bien méchant, juste de quoi vous faire tenir tranquille. Je vais vous emmener dans un endroit plus calme.
J'ai eu la mauvaise idée de naître en 1950 sur le ravissant atoll polynésien de Turiya. Vous connaissez sûrement ?
Non, pas du tout.
C'est vrai, ce genre de détails ne vous intéresse pas ? C'est une chure de mouche sur la carte du Pacifique. Mururoa, ça vous dit quelque chose quand même ?
Être le directeur de l'agence de l'énergie atomique ne fait pas de moi le responsable des essais nucléaires en Polynésie. Je suis né en 1966.
Oui, quelle coïncidence ! Le premier tir aérien a été effectué à Mururoa le 2 juillet 1966. Il avait une puissance équivalente à deux bombes d'Hiroshima. Le niveau de radiation sur mon atoll distant de seulement 100 km de l'essai a été plus de 1000 fois supérieur à celui relevé en France après le passage du nuage de Tchernobyl.
C'est possible.
Pourtant, les responsables de l'époque ne nous ont pas dit de nous protéger, ni après cette première explosion, ni après toutes les autres.
Encore une fois, qui puis-je ?
Ni de ne pas manger le poisson que l'on pêchait, ni les fruits que l'on récoltait, ni de ne pas boire l'eau qui tombait du ciel, ou celle de nos puits.
Oui, c'est sans doute regrettable, mais...
sans doute, sans doute. Ma famille a été presque entièrement fauchée par les cancers de toutes sortes. J'ai perdu mes deux enfants en bas âge, fait 4 fausses couches. On m'a retiré la thyroïde à 25 ans. J'ai une leucémie.
Oui, écoutez, je comprends tout à fait, mais encore une fois, je n'y suis pour rien.
Oui, pour rien. Vous êtes la vitrine de l'énergie nucléaire dans le monde. Vous vendez des centrales comme si c'était de simples usines d'ampoules électriques. Et ne dites pas que ça n'a rien à voir avec les essais militaires. C'est à cause d'eux que notre pays est à 75% nucléaire.
Vous dramatisez, tout est sous contrôle, il n'y a aucun danger.
Vous me rappelez ces hauts gradés qui, pendant les explosions, étaient cachés sous des abris en plomb, derrière des masques à gaz et de grosses lunettes de soudeur, tandis que les simples soldats restaient à l'air libre, protégeant leurs yeux de la lumière irradiante avec le revers de leur paume. Pourquoi n'habitez-vous pas à côté d'une centrale, si c'est si inoffensif que ça ?
Ça n'a rien à voir, vous mélangez tout.
Au contraire, mais vous voyez, depuis que je suis près de vous, je vous ai déjà un peu irradié. C'est sympathique, non ? Cette transmission invisible.
Plaisanter.
Non, pas du tout. Et même, lorsque je vous ai attaché sur cette chaise, j'ai glissé une petite pierre dans la poche de votre pantalon. Elle est très jolie, mais très toxique. Je l'ai ramassée sur l'atoll. Vous ne comptiez pas avoir d'autres enfants, de toute façon.
Je veux voir mon mari. Appelez mon mari.
Votre mari est occupé, on ne va pas le déranger. Il discute avec une amie.
Pourquoi vous faites ça ?
Reagan, ça vous dit quelque chose ?
Le président américain ?
Non, c'est une petite ville du Sahara algérien. C'est là que la France a effectué ses premiers essais nucléaires entre 1960 et 1966.
Ah, je comprends pas.
Mon grand-père était du village de Jedida, tout près de Reagan. Et avec d'autres, ils ont construit la base militaire, été chargés de la maintenance, du nettoyage, enfin de tous les travaux les plus ingrats.
Je comprends vraiment pas.
Après les premiers essais en plein air, les autorités ont décidé de faire les tirs dans des tunnels à l'intérieur de la montagne, à Ine Eker, pour confiner les rejets. Mais le 1er mai 1962, l'explosion souterraine a été sous-estimée. Des pans entiers de la colline se sont écroulés et les vents ont propagé les rejets radioactifs. Les travailleurs, les habitants, les nomades, tous ont été laissés dans l'ignorance du danger.
Votre grand-père a été touché?
Comme la majorité des villageois. Lui, il est mort d'un cancer généralisé. Il n'avait pas 40 ans. Tous mes proches sont malades depuis.
C'est très triste.
Oui, très triste. D'autant que la France n'a jamais reconnu la gravité des risques qu'elle avait fait courir à tous ces gens. Personne n'a jamais été indemnisé.
Vous voulez que je vous fasse un chèque?
Non. Vous êtes gentil. Je suis d'autant plus désolé.
Qu'est-ce que vous m'avez fait?
Dans votre cocktail, j'ai rajouté un peu de sable broyé très fin du village de mon grand-père.
C'est dangereux?
Retirez cette pierre. Retirez-la tout de suite.
Pas avant que vous n'ayez écrit votre acte de contrition.
Mon quoi?
Une lettre, si vous préférez, où vous allez enfin dire la vérité.
Je n'ai jamais menti.
Écrivez ce texte, où je dirai aussi ce que j'ai découvert dans le petit carnet que vous cherchiez désespérément à retrouver.
Je ne vois pas du tout ce que vous voulez dire.
Des chiffres, des dates, des noms. Ça concerne l'achat de cette mine d'uranium en Namibie et les gros profits que vous avez faits sur le dos de l'État français.
Cette transaction était tout à fait légale et c'est l'autonomie de nos centrales qui est en jeu.
Je constate que le sort des travailleurs pauvres et exploités qui sortent le minerai quasi à main nue ne vous intéresse pas plus que celui des habitants de mon beau pays.
Je ne suis coupable de rien.
Oui. On connaît le couplet « Responsable, pas coupable ». Bon, puisque c'est votre volonté, ce carnet sera remis aux autorités compétentes dès demain.
On va vous arrêter, pauvre folle, pour m'avoir volontairement empoisonné.
C'est possible. Mais si vous écrivez cette lettre, je vous rendrai votre carnet, j'enlèverai la pierre, je rincerai vos yeux à l'eau claire, et ainsi... vous aurez peut-être une chance de ne pas mourir trop vite. Ça vaut le coup, non?
Passez-moi le stylo. Docteur,
on a refait deux fois les analyses. Vous n'avez pas été contaminé, ni votre femme d'ailleurs.
Pourtant, il m'a dit que c'était du sable de son village.
À part un puissant calmant, on n'a rien trouvé dans votre sang, je puis vous l'assurer, Madame Vaujon.
Tu peux le croire, Cécile, c'est le médecin-chef du service.
Excusez-moi, tous les deux, mais c'est ce qu'on a dit à des milliers de gens exposés aux essais nucléaires. Vous ne risquez rien. Et pourtant, ce n'était pas vrai.
Ça n'a aucun rapport. Cette femme est une folle criminelle et son complice n'est pas mieux.
Ali a été très gentil avec moi, très poli.
Et il t'a fait croire qu'il t'avait intoxiqué?
Non, pas du tout. Il était même désolé de m'avoir fait boire ce cocktail.
Oh, je t'en prie, tu ne vas pas le défendre en plus.
En tout état de cause, vous n'avez aucune séquelle physique, ni l'un ni l'autre. Par conséquent, vous allez pouvoir repartir chez vous. Mais auparavant, le commandant Marchand désire vous poser quelques questions. Allez-y, vous pouvez entrer.
Messieurs, dames.
Madame.
Commandant.
Sans trop vous déranger, je voudrais revenir sur les deux prises d'otages dont vous avez été victime.
Vous avez retrouvé cette folle?
C'est là le problème. Vous avez décrit une femme plutôt menue, aux longs cheveux noirs et qui se prénomme Maïti.
Exactement. Elle m'a dit aussi qu'elle était née en 1950 et qu'elle avait été institutrice en Polynésie.
C'est bien ce que nous avons recoupé, nous aussi. La société qui s'occupe de l'entretien de vos bureaux nous a confirmé avoir engagé une femme portant le nom de Maïti Théorou il y a 3 ans et qu'elle faisait régulièrement le ménage à votre étage.
Vous l'avez retrouvée. Elle n'a pas dû aller bien loin.
Effectivement. Elle est morte.
Je n'y suis pour rien. Je vous le jure.
Je sais, elle est morte il y a 1 an.
Qu'est-ce que vous racontez?
1 an, jour pour jour. Elle est décédée des suites d'une leucémie. Elle avait caché ce détail à la médecine du travail.
Un détail, en effet.
Oh, Cécile, je t'en prie. Écoutez, commandant, je n'ai pas rêvé. Une femme qui m'a dit s'appeler Maïti m'a retenu de force dans mon bureau et a essayé de me tuer.
Non, de te contaminer, comme elle avait été contaminée.
Oh, ça va.
Monsieur, avait-elle l'accent haïtien?
Je ne crois pas. Non, pas du tout même. Vous croyez qu'une autre personne a pu se faire passer pour elle?
Nous avons fait un relevé d'empreintes dans votre bureau, mais il y en a énormément, ça va prendre du temps.
Et Ali, vous l'avez retrouvée?
Non, mais là, le problème est différent. Alizem n'existe pas.
Je vous demande pardon. Ali est mon chauffeur depuis 2 ans.
Il a dû utiliser de faux papiers, on ne trouve sa trace nulle part, ni en France, ni dans son pays d'origine, enfin, celui qu'il déclarait comme son pays d'origine.
Regan, c'est en Algérie, dans le Sahara.
Comment tu sais ça?
Il me l'a dit.
Je le note. On va chercher par là.
Est-ce que vous avez pu prouver qu'il connaissait Mahiti?
Non. Sauf si... On sait que Mahiti est venue en métropole pour se faire soigner il y a 10 ans et que pendant son séjour, elle a donné bénévolement des cours de français à des enfants des cités. Ils auraient pu se rencontrer à cette occasion.
Mais c'est plutôt léger comme faisceau de présomption.
Je ne vous le fais pas dire. C'est pourquoi nous allons continuer nos recherches.
En tout cas, moi, je ne veux pas porter plainte.
On ne te demande pas ton avis. Avant de partir, commandant, je voudrais savoir...
Oui?
Avez-vous trouvé une lettre en fouillant les affaires de Mahiti dans l'entreprise où elle travaillait?
Non, ni nulle part d'ailleurs. Mais si c'était le cas, je vous préviendrai. Autre chose, vous avez dit que cette femme vous avait demandé de fermer les yeux et de compter jusqu'à 100. Quand vous les avez rouverts, vous étiez seul dans votre bureau, libre et sans trace de lien.
Oui, comme si tout cela n'était jamais arrivé.
Moi, je me suis endormie. À mon réveil, Ali était parti. Et la voiture était à nouveau garée dans la cour de l'entreprise de mon mari.
Très bien. Je vous remercie pour votre aide. Je vous laisse. Au revoir.
La lettre, c'est celle qu'elle t'a obligée à écrire?
Comment tu le sais?
Ali me l'a dit.
Si elle réapparaît, je nierai tout, de toute façon.
Oui, comme d'habitude. Ça t'a plutôt réussi jusqu'à présent.
Cécile, on fait la paix. Le week-end prochain, je t'emmène où tu veux. Dis-moi.
J'hésite entre le Sahara et la Polynésie.
Très drôle.
Ouais, très drôle.
Si j'ai parlé, c'est à l'écho. Si j'ai aimé de grand amour, triste ou joyeux, ce sont tes yeux. Si j'ai aimé de grand amour, ce fut ta bouche grave et douce, ce fut ta bouche. Si j'ai aimé de grand amour, ce furent ta chair tiède et tes mains fraîches. Et c'est ton ombre que je cherche.
C'était Nuit Noire, Patrick Liégibel. Atome crochu, de Marion Cibla. Avec Mahiti Théoroux, Marianne Mathéus. Antoine Vaujon, Pierre Puy. Cécile Vaujon, Marie-Armelle Deguy. Ali Zem, Mousse Zouhéry. Charles Debac, Philippe Pierrard. Tina Marchand, Marina Moncade. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal, Mathieu Leroux et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Michel Sidoroff. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr. Dans un instant, une seconde nuit noire, Le Vengeur Masqué de Michel Laguéry. Nuit noire, Patrick Liégibel. Le Vengeur Masqué de Michel Laguéry. Une réalisation de Michel Sidoroff. Révélé par le théâtre de Philippe Bouvard et l'écriture des shows de Michel Leeb, Michel Laguéry vit à 200 à l'heure. Comédien fétiche de Colline Serrault, cet homme orchestre à l'originalité déconcertante consacre le peu de temps que ses aventures théâtrales ou télé lui laissent à l'écriture. Des pièces, des sketchs, des scénarii font de Michel un auteur prolixe. Charles vit confortablement sa retraite quand débarque son ami Paul, qui veut squatter son appartement.
Oh.
Ici, je te dérange pas.
Ben si, j'étais en plein concert.
Je suis désolé.
Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise ?
Mes affaires.
Ah, tu pars en vacances et t'es venu me dire au revoir.
Non, je viens chez toi, m'installer. J'en peux plus de vivre seul.
Et comment je fais, moi ?
C'est pas pareil. Avant, t'avais Simone. C'est triste qu'elle soit morte. Mais t'as des souvenirs. Moi, je n'ai jamais eu personne.
Et tu viens de t'en apercevoir aujourd'hui ?
Oui. Ce matin, j'ai pris ma décision. Je vais aller vivre chez Charles, mon seul véritable ami.
Tu t'es demandé si je serais d'accord ?
Eh bien, justement, je t'en parle maintenant. J'y ai pensé toute la nuit, en pesant le pour et le contre. On a le même âge, t'es veuf, je suis célibataire, on est retraités tous les deux. Je n'ai pas d'enfant, toi tu as une fille unique qui vit sa vie. Alors qu'est-ce qui nous en empêche ?
Ben, l'amitié ! On se supporte parce qu'on se voit de temps en temps. Si on vit ensemble, c'est foutu. On n'est pas fait pour ça.
Pourquoi ? On n'a jamais essayé. Si chacun y met du sien, il n'y a pas de raison.
Enfin, mais dans ta valise, tu trimbales aussi tes habitudes, tes petites manies de vieux garçon, des tics dont tu ne te rends même plus compte. Ben, et moi, c'est la même chose. Tu imagines le tsunami que ça va faire, la rencontre des deux ?
J'ai une surprise pour toi.
Ça fait beaucoup pour aujourd'hui.
Tiens.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Un ordinateur ! Ah ben toi, le roi de l'informatique, tu ne reconnais pas...
Mais qu'est-ce qui te prend ? Enfin, pendant 40 ans, j'ai passé mes journées entouré de collègues transparents, face à des clients arrogants, dans une banque sans âme. J'ai attendu sagement la retraite pour tourner la page, et toi, tu m'offres un ordinateur ?
Non, mais c'est pas pour travailler, c'est pour jouer !
Eh ben, j'ai pas envie de jouer. Tu peux aller le rendre, je m'en servirai pas. Bon, ben... Moi, je vais faire des courses. Hmm? Regarde la télé en attendant. Il y a des chiffres et des lettres.
Ne vous fâchez pas, Lisa. Je n'ai pas l'habitude de ranger. Je ne suis pas un homme d'intérieur.
Et moi, je ne suis pas une bonne à tout faire. Hein. Charles me paie pour faire le ménage et le repassage, point barre.
Et pour l'ordinateur, vous allez me montrer ? Parce que Charles, il ne veut pas en entendre parler.
Justement, vous l'avez acheté sur le bon coin, c'est ça ?
Mais non. Pourquoi ?
Vous savez ce qu'il y a dedans ?
Non.
Une bombe.
Quoi ?
Un trésor, si vous préférez.
Expliquez-vous, je ne comprends rien.
Pas avant que vous me disiez où vous l'avez eu.
Vous allez me prendre pour un nul. Voilà, avant d'arriver chez Charles, j'ai fait un crochet par le café tabac pour jouer au bingo. C'est en grattant le ticket que j'ai trouvé sur la banquette une sacoche avec l'ordinateur dedans. Au lieu de le remettre au patron, je l'ai gardé pour faire plaisir à Charles, pour pas arriver les mains vides.
Eh ben, vous avez gagné le jackpot.
Bah non, le ticket a été perdant, même au tirage. J'ai vérifié.
Mais je vous parle pas du bingo, mais du contenu de l'ordinateur. Il doit appartenir à un trader qui travaille dans la finance internationale.
Comme Charles dans sa banque avant ?
Je ne sais pas ce que faisait Charles, mais celui-là, il m'a l'air d'un escroc de haut vol.
Ah bon ? Il faut le montrer à Charles, lui, il saura nous dire.
Je croyais qu'il ne voulait plus entendre parler d'informatique.
Bah alors qu'est-ce qu'on en fait ? Je vais le rapporter au tabac ?
Sûrement pas. Ça risque de me prendre un peu de temps, mais je vais escroquer l'escroc.
Comment vous allez faire ?
Comme lui. Ouvrir des comptes dans des paradis fiscaux et y placer l'argent qu'il a lui-même détourné. Il n'y a pas que l'aspirateur que je maîtrise.
Vous allez être riche, alors ?
Oh, fais pas cette tête de coquère, vous l'aurez, votre part. Mais attention, hein, pas un mot, hein, pas une allusion à Charles, c'est compris ? Thank you.
C'est gentil, ça, de venir dîner avec ton vieux père. Je désespérais un peu.
Je te signale que t'as toujours une excuse pour pas venir quand je t'invite. T'es très actif pour un retraité.
Bon, on va pas se chamailler. Raconte-moi plutôt ce que tu fais. Tu es heureuse dans ta vie? Tu es amoureuse?
Voilà, c'est un interrogatoire. D'abord, je travaille toujours pour l'association. C'est super, les gens sont très sympas. Je gagne pas beaucoup, mais ça m'est égal.
Si tu m'avais écouté, tu serais entrée à la banque.
Bon, on va pas revenir là-dessus. C'est pas le fric qui me motive. Par contre, j'ai une surprise. Enfin, j'espère.
Tu vas te marier?
Non. Enfin, pas exactement, tu verras.
Ah! Eh ben, moi aussi, j'ai une surprise. Tu reconnais Paul?
Ah oui, ton copain figurant.
Comédien. Bonjour, Chloé. Dis donc, ça fait longtemps.
Je croyais que vous aviez disparu.
Et non, je m'accroche. Hein, Charles?
Ah, ça, tu peux le dire. Et cette charmante jeune femme qui croule sous les paquets, ce n'est pas ma maîtresse, je te rassure. C'est Lisa qui fait le ménage ici et qui va nous préparer le dîner. Enfin, j'ai fait simple, le traiteur d'en face. C'est bon et c'est pratique.
Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi, monsieur Charles, vous serez bien trois?
Non, quatre. Le quatrième couvert, c'est ma surprise. Elle va pas tarder. Qu'est-ce que je disais?
Bonjour. Je vous présente Daniel, mon ami.
Enchanté. Moi, c'est Paul. Je suis le meilleur copain
Daniel,
de...
Daniel, voici Charles, mon père.
Bonjour et bienvenue, puisque c'est la formule.
Tout est prêt. J'en ai pour 5 minutes.
Asseyez-vous. On sera plus à l'aise, enfin, pour manger.
Daniel et moi, on s'est rencontrés à la cinémathèque.
Moi aussi, je fais du cinéma. Enfin, j'en ai fait, il y a déjà...
Voici les hors-d'œuvre. Je vais vous servir. Passez-moi vos assiettes. Merci.
Et vous faites quoi, Daniel, dans la vie?
Je suis capitaine de police au pôle financier et informatique.
Ah. Là, buvez un peu d'eau, ça va passer. Dépêchez-vous, je dois encore enregistrer les virements de fonds.
Arrêtez le repassage de ce linge et prenez ma place sur l'ordinateur si ça ne va pas assez vite.
Charles me paie pour repasser, pas pour vider les comptes du CAC 40.
On a le temps. Il m'a dit qu'il ne rentrerait que pour dîner. Oh, je crois que je me suis trompé. Regardez, Lisa, il n'y a pas un zéro de trop?
Poussez-vous. Alors, 3 945 000 plus 683 000 égale... Ah ben non, c'est bien ça, il n'y a pas d'erreur.
C'est drôle, je n'arrive pas à m'y faire. Tous ces millions sur mon compte, je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas en profiter.
Vous plaisantez? Vous croyez que je vais continuer à repasser des chemises avec une fortune pareille?
Vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Et moi, je ne peux pas laisser Charles.
Oui, ben partez ensemble. Hein.
Et Chloé?
Ben, vaut mieux qu'elle ne soit pas au courant, surtout si elle mettait Daniel dans la confidence. Hein. Adieu les îles Caïmans. Hein.
Mais Charles ne partira pas en abandonnant Chloé. Et moi, je ne peux pas le laisser ici. Il a trop besoin de moi.
Conclusion, vous allez continuer à vivre comme un pauvre pendant que vos millions dorment au soleil? Je me demande si finalement vous n'êtes pas un peu con. Hein.
La preuve que non. J'ai appris très rapidement à jongler avec les comptes. Et si je veux, je peux devenir un geek, comme vous dites.
Non, non, un geek. Bon, puisque vous êtes si fort, faites un virement online avant de fermer la session. Je laisse en faire 2 ou 3 courses pour votre dîner. Et à mon tour, tout doit être terminé. Compris? Allez, bon courage.
Toi, ma pauvre fille, qu'est-ce que tu crois? C'est pas parce que tu m'as montré 2 ou 3 trucs qu'il faut te sentir supérieur. Tiens, regarde un peu comment je vais te faire passer ces 2 petits millions sur mon compte en un clic. Et hop, opération validée en ligne.
Bravo, Paul. Tu as fait de gros progrès. Je suis fière de toi.
Hein? Qui me parle?
Moi, ton ordinateur.
Comment c'est possible?
Tu as cru être le magicien de la finance, être devenu Crésus.
Lisa, c'est toi? Arrête, c'est pas drôle, j'ai reconnu ta voix.
Je ne suis pas Lisa. Tu ne me connais pas. Mais je vous manipule tous les deux. Sans moi, vous n'auriez pas pu vous enrichir. Vous avez l'illusion de savoir, mais c'est moi qui agis à votre place.
Pourquoi vous faites ça ?
Par vengeance.
Mais je ne vous ai rien fait, moi. C'est Lisa la responsable.
Non, ni l'un ni l'autre. Le seul coupable est Charles.
Ah non, je vous jure qu'il n'est pas au courant. Il ne veut plus toucher un ordinateur depuis qu'il est à la retraite.
Il m'a ruiné et poussé au suicide. Il a profité de ma confiance pour vider mes comptes en faisant croire à des fluctuations des cours du marché. Je dois me venger.
Non, je refuse. Et d'abord, je ne crois pas un mot de votre histoire.
Tu veux une preuve de mon pouvoir ? Regarde bien l'écran. Je vais annuler les 2 millions que tu venais de transférer. Voilà. Tu es convaincu ?
Mais vous n'avez pas le droit. C'est mon argent.
La vie de Charles contre toute ta fortune. Il te reste 1 heure.
Elle a encore oublié ses clés.
Voilà, j'arrive, Lisa.
Bonjour, Paul. Je ne vous dérange pas ?
Non. J'allais... Bonjour, Daniel.
En fait, je venais voir Charles.
Il est sorti et je ne sais pas quand il doit rentrer.
Ça m'ennuie, c'est assez urgent.
Ah, je vous dirais bien d'attendre, mais je suis en plein travail et...
C'est votre ordinateur ?
Oui.
Vous écrivez des pièces de théâtre ?
Oui, c'est ça. Des pièces de théâtre.
Je peux lire ?
Non, je préfère pas. Ça porte malheur quand c'est pas terminé.
Vous répondez pas ?
Si, bien sûr.
Oui. Hein ? Quoi ?
Drôle de pièce de théâtre. Je suis curieuse, hein ? Ça me rappelle un scénario que je lis en ce moment à la Brigade.
Comment ?
J'enquête sur une escroquerie internationale qui implique plusieurs suspects. Ils vident des comptes bancaires à leur profit et les placent dans des paradis fiscaux.
Alors là, c'est pas moi. Je suis nul en informatique.
À qui appartient cet ordinateur ?
À Charles.
Pourquoi m'avoir dit que vous écriviez des pièces de théâtre ?
Je ne sais pas. Ça m'est venu comme ça.
C'était pour le couvrir. Vous êtes son complice.
Moi ? Vous vous trompez. Je suis intermittent en retraite et...
Bonjour, Daniel.
Daniel croit que Charles et moi, nous sommes des escrocs.
Ah bon ?
Lisa, mais je vais devoir aussi vous interroger.
Si vous voulez, mais vous savez, moi, je viens 2 fois par semaine faire mes heures de ménage, les courses pour Monsieur Charles et repasser ses chemises. Hein. Pour le reste, vous me permettez que je pose mes sacs dans la cuisine ?
Merci. Paul, racontez-moi tout. C'est Charles qui a eu l'idée de vous faire ouvrir des comptes numérotés ?
Je ne comprends rien.
Ne mentez pas. J'ai toutes les informations sur vos transactions. Je vais vous confronter avec Charles.
Je suis incapable de faire ce que vous dites.
Vous risquez gros, Paul. Je suis certaine que c'est Charles qui est le cerveau de l'affaire. Vous n'êtes qu'un exécutant, c'est ça ?
Je ne suis pas au courant des affaires de Charles, je vous le jure.
Voilà, comme ça, on n'aura pas à répondre à la police.
Vous l'avez tué ?
J'en ai peur. Allez, va chercher la serpillière. On va nettoyer par terre et on va la mettre sous ton lit.
Ah, vous me tutoyez maintenant. D'abord, je refuse. Charles va trouver le corps de Daniel.
Tu m'as dit qu'il rentre jamais dans ta chambre. Allez, grouille-toi. Après, on file avant que les flics arrivent.
Mais moi, j'ai rien fait.
Ah ouais ? Et les millions que t'as sur ton compte, ils sont tombés du ciel ?
Justement, il faut que je vous explique, je n'ai plus rien.
Oh, allez, arrête tes conneries, aide-moi !
C'est pas de ma faute. Je n'ai rien touché. L'ordinateur s'est mis à parler tout seul et à menacer de me voler mon argent si je ne tuais pas Charles.
Je sais pas ce que tu fumes, mais faut que t'arrêtes. Hein. Bon, allez. Moi, je pars. Hein. Toi, tu fais ce que tu veux. Mais si tu racontes cette histoire, t'es mort. Allez, salut.
Vous emportez l'ordinateur ?
Ouais, pour le faire parler et récupérer tes millions.
Bonjour, Chloé. Non, non, tu ne me déranges pas. Oh, écoute, je viens de rentrer. Mais pour qu'on parle de quoi? On n'a plus rien à se dire sur ce sujet. Bon, bah passe si tu veux.
Bonjour, Charles.
Tu pars en vacances?
Je rentre chez moi. Je ne veux pas t'encombrer davantage.
Mais tu me fais une grosse déprime, là. Allez, tu sais que t'es mon meilleur ami et que j'ai besoin de toi.
Oui, je le sais. Une voix intérieure m'a tout dit. Je suis ton jouet, tu me manipules pour arriver à tes fins.
Oh, écoute, toi, tu devrais aller consulter. Hein?
Tu sais, Charles, j'ai fait des rêves horribles dans lesquels je te tue. C'est insupportable de tuer son meilleur ami, je ne pourrais jamais, même pour des millions. Tu comprends? Des millions.
Mais oui, t'as besoin de repos. Reste dans la chambre, je vais m'occuper de toi, je vais te remettre en forme. Hein?
Non, je veux rentrer chez moi. Je ne peux plus dormir dans le lit de Chloé. Je ferai des cauchemars. Elle me déteste, elle ne m'a jamais aimé. Et sa copine Danielle, c'est pire. Elle me persécute. Elle veut me torturer, me faire avouer des choses impensables. Je ne suis pas un escroc. Je suis un comédien au chômage. Qu'on me foute la paix.
Paul, calme-toi.
Adieu, Charles. Pardonne-moi. Mais... je n'ai pas voulu te faire de mal. Ce n'est pas moi, c'est la voix qui m'a obligé. C'est la voix.
Paul. Paul. Paul est retourné chez lui. Il ne supportait plus la vie à deux.
Enfin, une bonne nouvelle. Je ne vais pas te faire de peine, mais je ne l'ai jamais aimé. C'est un comédien raté, mais qui joue très bien la comédie dans la vie. Et toi, tu étais son public idéal.
Non. Penses-tu, Paul, c'est un poète lunaire. Il aime tout le monde, il a besoin de reconnaissance, mais... ce n'est pas un méchant.
C'est vrai que ce n'est pas facile d'aimer. Mmh. Par exemple, moi, je t'aime, toi, tu m'aimes. Mais Daniel, moi, je l'aime et toi, tu l'aimes pas.
Mais qu'est-ce que tu veux? Je n'imaginais pas ta vie amoureuse comme ça.
T'as envie que je sois heureuse? Eh ben, je le suis, c'est le principal, non?
Alors ne m'en demande pas davantage.
Maman aurait adoré Daniel, j'en suis certaine.
Laisse ta mère en paix. Elle a assez souffert de ton départ sans donner une nouvelle pendant 4 ans. C'est ce qui l'a tuée.
T'as pas le droit de dire une chose pareille. Elle se sentait seule et abandonnée. Parce que tu t'abrutissais de boulot dans ta banque pour gagner encore plus de fric que tu trouvais pas le temps de dépenser avec maman.
Et qu'est-ce qui te permet de me juger, de parler au nom de ta mère?
Je suis ta fille. Et j'ai le droit de détester ton attitude envers moi et envers Daniel.
Je ne porte aucun jugement sur Daniel. Je ne lui veux aucun mal.
Alors pourquoi tu veux pas l'accueillir? Puisque je l'aime et que c'est la femme de ma vie.
Oh, n'insiste pas, Chloé. Tu te fais du mal pour rien.
Papa, fais-moi plaisir. Donne-moi une dernière chance. Rencontrons-nous tous les trois, s'il te plaît. Je vais l'appeler. Hein? Tu veux bien? C'est la sonnerie du portable de Daniel? Qu'est-ce qu'elle fait dans ma chambre? Papa, réponds-moi. Daniel? Daniel!
C'était Nuit Noire, Patrick Liégibel. Le Vengeur Masqué, de Michel Laguéry, avec Paul, Daniel Isopo, Charles, François Siener, Lisa, Johanna Nizard, Chloé, Sophie Froissart, Daniel, Caroline Breton, Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage et mixage, Benjamin Vignal, Mathieu Leroux et Jean du Cimetière. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Michel Sidoroff. Une émission que vous pouvez réécouter et podcaster sur franceinter.fr.